A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 282 du podcast Jean Actuel à Matéi. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des matchs NFL. À mes côtés cette semaine, ils ont parfois peu dormi mais ils sont vaillants. Tout d'abord, il y a Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël.
Salut, salut à tous.
L'homme qui a le moins dormi du lot. Il se frotte les yeux avec son petit pull bleu, c'est Raoul Villeroy. Bonjour Raoul.
Salut.
Raoul qui a dormi un tout petit peu plus quand même.
Ouais, un petit peu quand même.
Et Camille Sarabène est avec nous à la technique. Bonjour Camille.
Salut.
On vous rappelle d'abord que alors là on sent la fatigue qui joue déjà. Le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café à Paris. Et je dis encore ça alors que c'est le podcast du lundi aujourd'hui. Le podcast du mardi est décalé au lundi. Donc le podcast vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On. La prochaine évidemment ce sera le Super Bowl. N'hésitez pas à réserver, il y a le lien pour réserver sur le site. Et aussi n'hésitez pas à noter ça, le mardi 5 février nous serons en public au Hard Rock Café pour débriefer le Super Bowl. Ce sera donc à partir, comme d'habitude, de 18h30, enregistrement à 19h. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, on s'est très bien amusé la dernière fois. Deux finales de conférence, deux prolongations, les Patriots et les Rams au Super Bowl, beaucoup de beaux jeux, des polémiques. Quelle semaine, messieurs, on va décortiquer tout ça, les tops et les flops sont là aussi. On dira un petit mot sur les matchs de Londres qui ont été annoncés juste avant notre émission. Et c'est parti.
Quick snap, Breeze, pass is incomplete, no flag for Tommy Lee Lewis. Crowd's going crazy as there's no flag right on the Saints sideline. Bad snap, the kick is good. Rams win it and on to Super Bowl 53 they go.
Saints 23, Rams 26, ambiance scandale, comme disait le poète. Messieurs, est-ce qu'il faut refaire toutes les règles? Est-ce qu'il faut virer tous les arbitres? Est-ce qu'il faut, comme le soulignent certaines personnes très modérées sur les réseaux sociaux, réunir tous les arbitres dans une pièce et leur tirer dessus? C'est la grande question qui se pose désormais après cette rencontre. 3e et 10, Drew Brees envoie la balle vers Tommy Lee Lewis. Interférence évidente, non sifflée. Les Saints auraient probablement gagné ce match si elle avait été sifflée. En effet, derrière, field goal, 3 points d'avance, égalisation des Rams dans la foulée, interception de Brees en prolongation, field goal de 57 yards pour gagner. Commençons évidemment par le commencement et cette énorme discussion, ça fait exploser les commentaires sur le site. Cette erreur d'arbitrage remet-elle en cause tout l'arbitrage NFL?
Alors, il y a cette faute non sifflée évidente. Maintenant, tu l'as dit très bien. Probablement les Saints auraient gagné derrière, mais on n'en est pas sûr non plus. Donc de là à dire que ça... Non mais Voilà, déjà, si on part dans la fiction, tu sais pas, Brees, il peut se faire intercepter dans la end zone, il peut se passer des tonnes de trucs. Donc, je comprends que ça mette la rage aux Saints, et je suis le premier, parce que pour les pronos, on en parlera la prochaine fois, ça me plombe un peu aussi. Maintenant, comme tout le temps dans un match, le fait qu'il soit arrivé là, à ce moment-là, et que ce jeu-là se passe de telle manière, c'est aussi tout ce qui s'est passé avant. S'ils avaient eu 30 points d'avance, on n'en aurait pas parlé. Donc, tu peux pas retenir juste ce fait-là dans le match. Il est hyper décisif, mais c'est dommage de réduire ce joli match en plus à juste cette action.
Là où Raoul n'a pas tout à fait tort, c'est que ils auraient mangé le chrono. J'allais dire une bêtise derrière, ils auraient pu marquer un touchdown, mais ils auraient mangé le chrono en effet. Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de cette erreur d'arbitrage et de la polémique qui suit ?
C'est une erreur d'arbitrage indéniable, parce qu'au-delà même de la passe interférence, tu as même un casque contre casque. Enfin, t'as deux fautes en une, on va dire. Les arbitres auraient dû siffler faute, les Saints derrière gagner, parce que. Au-delà de ça, en fait, les Saints avaient juste à poser le genou au sol trois fois, puis tirer un field goal pour l'emporter, et c'était réglé. Mais là où forcément, je comprends qu'il y ait polémique, parce que dans les faits, c'est quand même une action qui change le cours du match de manière
évidente.
Évidente, ouais. Après, je rejoins Raoul aussi, parce que je suis pas trop fan de l'idée que les Rams finalement volent ce match, parce que les Rams sont pas moins bons que les Saints sur ce match. Les Saints mènent 13-0 puis se laissent remonter. Les Saints mènent 20-10 puis se laissent remonter. Les Saints se font intercepter en prolongation alors qu'ils ont la balle pour gagner le match comme les Patriots l'ont eu. Voilà, donc les Saints ont eu aussi les armes pour se mettre plutôt à l'abri, pour aller remporter ce match. Ils sont passés à côté en partie à cause de l'arbitrage, mais pas que. Et vraiment, quand tu regardes globalement sur le match, on peut pas dire que les Saints ont dominé cette partie. Il y a plus de yards côté Los Angeles. Il y a plus de réussite dans la red zone avec un 2 sur 4 contre un 2 sur 5 pour les Saints. Donc globalement, c'est quand même un match qui était vraiment équilibré, qui s'est joué en partie, c'est vrai, sur cette erreur d'arbitrage. Forcément, les Saints ont de quoi être déçus. On ne peut pas leur reprocher cette déception. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est le football, quoi. Enfin...
Oui, alors il y a le côté football. Après, moi, je suis dans ce que vous dites là, je peux leur reprocher l'avant, mais pas l'après. C'est-à-dire que je peux leur reprocher en effet qu'ils auraient pu jouer au sol, par exemple, plutôt que de tenter des passes avant qui ont arrêté le chrono. Et celle-là, ils auraient pu en effet maintenir un peu plus leurs avantages. Ils auraient pu être plus efficaces au sol. Il y a plein de choses qu'ils auraient pu faire. Après, je peux pas leur reprocher. Il y a des gens derrière qui ont dit oui, ils avaient qu'à défendre le field goal derrière, il y avait l'interception, et ils avaient qu'à mieux défendre aussi sur celui de the overline, etc. Ça, c'est dur parce qu'il y a quand même vraiment un côté sur ces interférences défensives où ils avaient quand même pas loin d'avoir un truc acquis et ça peut casser un truc dans la tête derrière, j'ai du mal à leur reprocher la suite. Mais je peux en effet leur reprocher l'avant, qui est un match qu'ils avaient en effet très bien débuté. Ils mènent 13-0, tu l'as dit, et surtout, ils auraient pu encore mieux le débuter parce qu'ils se contentent de deux field goals sur les deux premiers drives où ils étaient plutôt à l'aise en attaque, où les Rams étaient complètement dépassés eux en attaque parce qu'ils étaient complètement bouffés par le bruit. Ils avaient l'air perdus sur la ligne. Et en plus, les Saints se font manger. On parle de l'avant. Il y a le fake punt qui relance les Rams sur 4e et 5 sur les 30 yards des Rams au tout début du deuxième quart-temps. Alors, c'est toujours facile à dire après coup, hein, mais c'est quand même pas la plus grosse surprise de l'année que les Rams soient agressifs dans ce genre de situation.
Non. Ils ont dû se dire avant le match qu'il y allait un moment où ils allaient devoir tenter un truc. Puis McVay a dû se dire c'est maintenant. C'est une quatrième. C'est au milieu du terrain, si je me souviens. Donc au pire.
Non, ils sont sur leur 30 yards.
Sur leur 30
yards. Sur leur 30 yards, ouais. Ouais, okay.
Il y a un moment, il faut prendre un risque. Celui-ci est chaud, mais très bien exécuté. Donc finalement, ça lui donne raison.
Petit manque de concentration de l'équipe spéciale des Saints qui aurait dû s'y attendre un poil plus, parce que le punter des Rams, Johnny Aker, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de passe. Il est vraiment, enfin, c'est un bon lanceur de ballon pour un punter, hein, à son échelle, on va dire. Ça sentait que les Rams allaient avoir besoin de chercher un momentum, de changer quelque chose. Et je trouve ça dommage que Dennis Allen, le coordinateur défensif, enfin, et du coup le coach de l'équipe spéciale aussi qui s'en occupe, ait pas senti un peu plus cette possibilité-là. Après, c'est vrai que depuis les 30 yards des Rams, c'était peut-être un poil plus dur à envisager. Maintenant, Maintenant, c'est une équipe qui a laissé passer sa chance, comme tu l'as dit, à plusieurs moments. Moi, je pense que c'est vraiment c'est ce début de match où ils prennent deux field goals alors qu'ils avancent méthodiquement avec un très gros Alvin Kamara qui était une équation insolvable pour les linebackers des Rams qui n'arrivaient pas à le suivre en vitesse, qui n'arrivaient pas à le suivre sur les réceptions. Donc ça avançait et à chaque fois... Et c'est peut-être là où Sean Payton a peut-être manqué un moment d'un peu d'agressivité dans ce... Au lieu de se contenter sur les deux drives de prendre des field goals, peut-être qu'il y en a un où il aurait dû un peu forcer le destin, aller chercher un touchdown. Bon, après, c'est toujours un peu plus facile à dire maintenant, peut-être reposé quelques heures après, hein, mais...
Un petit mot, parce que alors j'aime bien le fait qu'on enregistre 24 heures après, parce que j'ai pu observer un peu toute la graduation de réaction entre le à chaud et 24 heures plus tard, enfin pas 24 heures mais un peu plus tard, notamment dans les commentaires du site, c'est-à-dire que à chaud c'était très très bouillant sur le truc, après ça commence à s'équilibrer, il y en a qui montrent qu'il y a eu d'autres appels, ensuite ça met en perspective comme on vient de le faire sur les autres phases de jeu, il y a aussi eu des erreurs d'arbitrage dans l'autre sens. On peut le souligner aussi. Il y a aussi des coups de sifflet qui sont manqués, pas aussi flagrants, pas aussi importants en termes de placement dans le timing du match, mais il y en a aussi quoi. On le dit souvent que ça s'équilibre.
Que prend Jared Goff qui dans les règles se siffle comme un face mask, mais que je trouve sévère parce qu'effectivement la main du défenseur part sur sa grille, mais enfin la tête, il prend pas la grille avec, donc bon. Je le trouve sévère celui-là et je comprends qu'on puisse regretter qu'il n'ait pas été sifflé, mais dans les faits, je trouve que la règle est un peu sévère là-dessus.
Alors, une petite dizaine de minutes, messieurs, pour qu'on en arrive à celui qui, pour moi, est quand même le héros de ce match, dont malheureusement personne ne parle, c'est Greg Zuerlein. 57 yards en prolongation, c'est le plus long field goal de l'histoire de la NFL en play-off. Il a marqué le field goal de l'égalisation en fin de match aussi. Quand on sait les problèmes qu'ont eu les kickers ces dernières années en NFL et en playoff, on leur a tellement tombé dessus, demandé à Cody Parquet ces dernières semaines. Greg Zuerlein, c'est 4 sur 4 dans ce match sur les field goals, c'est 2 sur 2 sur les extra points, il a marqué 14 points à lui tout seul. Et le 57 yards en prolongation, il faut quand même le mettre, sachant que derrière, s'il manque, les Saints repartent d'une super position pour marquer le field goal de la gagne.
Ouais, d'ailleurs, j'ai été surpris qu'il tape au lieu de punter. Les deux se valent, mais en fait, en y réfléchissant, c'est vrai que Greg Zuerlein, c'est quand même un kicker qui est hyper... solide,
c'est The Leg. C'est The Leg, hein, il est puissant.
C'est Greg The Leg, exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai pensé au moment où il va taper. Il me dit, c'est Greg The Leg, il faut y aller. Et du coup, ouais, c'est risqué, mais tu vois, ça ressemble un peu à ce que font les Rams dans ce match-là, de prendre des risques qu'ils les ont fait gagner.
57 yards en dos, mais il faut le tenter, de toute façon, quand t'as un mec qui le frappe comme ça. Mais il est clean, quoi. Il est hyper clean.
Oh, Raphaël, il part un peu sur le héros du match. Je sais plus, c'est celui-là ou c'est celui d'avant? Il y en a un quand il commence.
C'est celui juste d'avant,
celui
23,
juste avant, ouais. Il commence à partir un peu à droite, on se dit, ah, en fait, ça va y aller au milieu. Mais...
Raphaël, moi qui tape souvent sur les kickers, pour une fois quand même.
Ouais, non, mais je suis content qu'on mette effectivement en avant le kicker là, qui est clairement décisif. Après, pour moi, c'est quand même pas le héros du match. Hein, mais,
Alors, c'est plus la défense des Rams, non?
Ouais, voilà. Moi, la défense des Rams, sur laquelle on a tapé à juste titre une bonne partie de la saison, parce qu'elle était, elle sous-performée à plusieurs niveaux. Là, j'ai trouvé que c'est pour le deuxième match de suite en playoff, elle a sorti une nouvelle grosse performance, notamment la défense contre la course, qui était finalement quasiment le plus gros doute qu'on avait sur cette équipe, qui limite les Saints à moins de 50 yards au sol. Les Saints avaient quand même un duo Ingram-Kamara, après avoir limité la semaine d'avant déjà Zeke Elliott à moins de 50 yards. Donc on a vraiment un Wade Phillips, le coordinateur défensif, et ça pourrait être lui le héros du match finalement, qui a très très bien préparé ses playoffs et qui sort deux semaines de suite deux plans défensifs pas parfaits, mais de très bon niveau vraiment pour s'ajuster à ce que les attaques pouvaient lui proposer, notamment celle des Saints. En plus, puisque même à la mi-temps, il y a eu beaucoup d'ajustements parce que Alvin Kamara, qui vraiment brillait en première mi-temps, a un peu disparu en seconde mi-temps. Et puis voilà. Et à un moment aussi, il faut le dire, quand tu accumules autant de talent en défense, il y a un moment où ça peut finir par payer. Ouais. Je veux dire, on a vu Dante Fowler faire 2-3 actions de grand niveau. Akib Talib a plutôt bien défendu Michael Thomas. Parce que quand on se rappelle que Michael Thomas avait fait plus de 200 yards face aux Rams en saison régulière, là, il a quand même été globalement bien limité. Sue et Donald donc complètement ont quand même globalement mis une pression un peu constante sur Drew Brees sans forcément aller le saquer, mais il était jamais trop serein, tout ouais. le temps un peu ça venait à gauche, à droite, du centre. Donc voilà, c'est une grosse prestation de la défense des Rams. C'est à mon avis, ça a été quand même la clé sur ce match pour ne pas couler quand les Saints menaient 13-0 et permettre à l'attaque de revenir progressivement après avoir laissé passer l'orage du puis, bruit, de la colère du Superdome de New Orleans. Donc pour moi, les héros un peu ce soir, d'hier, c'est clairement la défense des Rams.
Et puis tu l'as dit dès le début de match, c'est déjà décisif de pas rompre et d'encaisser que des field goals dès le début de match, ça c'est énorme. Et puis et tu l'as dit, le jeu au sol, c'est 2,3 yards par course pour les Saints sur cette rencontre. Ils vont l'interception en fin de match aussi. Hein, tu parlais de pression sur Drew Brees, il est sous pression au moment où il la lance. Donc clairement la défense, ça a été l'énorme facteur X des Rams. On l'attendait pendant toute la saison et là ils ont limité les Saints à 290 yards au total. Donc clairement ça change tout. Michael Thomas est à 4 réceptions pour 36 yards. Tu l'as dit, alors qu'il était à 211 sur le match en saison régulière. Alvin Kamara a capté 11 passes sur les 26 complétées par Drew Brees, donc ça prouve quand même qu'il a quand même eu à jouer assez court. Et Alvin Kamara au final a fait beaucoup de chantiers, mais dans les airs, pas au sol. Donc ça a été clairement important. Raoul, impressionné par cette sortie défensive des Rams?
C'est l'accomplissement de ce qu'on attendait cette saison, et c'est ce que Raphaël dit. Il faut bien que quand t'es tous ces mecs là menés par Wade Phillips, faut que ça paye, c'est le moment idéal pour que ça paye. Voilà, c'est ta finale de conférence.
On va revenir souvent au coach, hein, j'ai l'impression, aujourd'hui. C'est pas pour rien, Wade Phillips, Sean McVay, Bill Belichick. Il n'y a pas des peintres hein, quand même qui sont passés. Hein.
Non,
c'est plutôt pas mal.
Les Rams donc s'en sortent, mais justement, où est passé Todd Gurley? 13 yards, plus petit total en carrière. Il a été sur le bord du terrain pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps. CJ Anderson à sa place. Alors, avec tout le respect qu'on peut avoir pour CJ Anderson, est-ce qu'il y a quand même de quoi être étonné quand Sean McVay dit que c'était totalement un choix tactique, c'était dans le flow du jeu?
Est-ce que c'était un choix peut-être sur le physique de Todd Gurley? On nous a vendu qu'il était complètement en forme. Peut-être que c'était un peu de l'intox aussi. C'est vrai que c'est surprenant parce que tu sais que Gurley est censé être un super coureur. Est-ce que c'est aussi, c'est peut-être quand même un choix tactique de se dire, Gurley, ils le connaissent bien en face, Anderson, on peut peut-être lui faire des choses différentes.
C'était plein champ et plus costaud, clairement.
Oui, mais voilà, mais il finit à, c'est 44 yards, 2,8 yards au total.
C'est pas meilleur, hein.
Je sais pas. C'était peut-être pour apporter quelque chose de différent.
Non, moi je pense que c'était vraiment, c'est ça, un choix quand même tactique de Sean McVay. Parce que dans les faits, CJ Anderson ne court pas bien mieux que Todd Gurley sur ce match. Hein. Il a la même moyenne de yards par portée. Juste, par contre, il insiste plus. Il va plein centre, plein centre, plein centre. Ça devait être et ça, on pourra en parler par rapport à l'autre match. Mais mine de rien, malgré le fait que le jeu au sol des Rams ne marche pas, les Rams courent quand même 26 fois. Je pense qu'on pourra faire après le parallèle face à une autre équipe. Mais c'est important. Les Rams ont continué à quand même jouer au sol, même s'ils n'avançaient pas tout le temps, pour créer de la diversité. Pas tout le temps donner le sentiment aux Saints qu'ils allaient jouer à la passe. Et je pense que dans la remontée qu'ils ont fait, ça a fini par payer de se donner toujours les possibilités d'aller chercher des yards au sol, même si ça marchait pas forcément.
Alors qu'ils sont derrière au score, en plus.
Alors qu'ils sont derrière au score. Hein. Ils ont jamais abandonné le jeu au sol, qui était leur identité un peu offensive. Depuis quand Gurley roulait, on va dire.
Mais ça a permis aussi peut-être d'installer un peu la play action, tu me disais, de maintenir un peu cette vigilance-là, parce qu'il y a quelques grosses passes complétées de Jared Goff sur ce type d'action. Jared Goff qui est à 25 sur 40, 297 yards, d'un touchdown, d'une interception. Alors ça a été un peu en deux temps. Hein. Il y a eu un début de match quand même très très compliqué, avec beaucoup de bruit, ils avaient l'air perdus sur le terrain. Alors ils n'ont pas été aidés, on l'a appris après coup, par un problème de système audio aussi dans le casque. C'est-à-dire qu'en plus du bruit, apparemment la radio a lâché sur le premier drive. Donc il a fallu qu'ils prennent le casque de son remplaçant. Ce qui est d'ailleurs étonnant, sachant que la Ligue n'aime pas trop que les joueurs changent de casque. Mais il a dû changer de casque, donc ça c'était un peu problématique. Donc début de match compliqué, mais derrière quelques très très gros lancers en fin de match. Il y a une troisième tentative complétée pour Everett après une petite échappée. Il y en a une autre pour rapprocher son équipe très légèrement pour le field goal de la gagne, qui est quand même aussi capital. Et finalement Jared Goff qui s'en sort plutôt bien. C'est pas un match exceptionnel, il a pas survolé, mais il s'en sort plutôt bien.
Non, mais c'est souvent, enfin. Jared Goff, il a rarement été brillantissime à lancer 8 touchdowns par match. Et parce qu'il avait ce jeu au sol qui l'a toujours soutenu, il n'a jamais eu besoin de lancer des camions de yards. Sur ce match-là, c'est le cas. Il tient bien. Il s'est débrouillé comme il a pu au début. On l'a vu un peu, on l'a vu aller même jusqu'au bout de sa ligne pour donner les jeux à tous les joueurs un par un. Enfin, ouais, il s'est débrouillé. C'est aussi une bonne expérience pour lui de réussir à gagner ce genre de match et à aller à un Super Bowl seulement dans sa troisième saison. Donc, ouais, il n'a pas été... sur les stats, ce n'est pas exceptionnel, mais je pense que le fait d'avoir gagné ce match-là et dans ces conditions-là et avec cette grinta à la fin, c'est tout à son honneur.
Ouais, moi je rejoins Raoul, je trouve vraiment que c'est une vraie belle prestation pour Jared Goff, pas forcément dans les détails si on rentre point par point, séquence par séquence on va dire, mais globalement être capable de se relever après un début de match très difficile où ça va même au-delà de juste quelques mauvais lancers, il n'arrive pas à communiquer avec ses partenaires, il n'arrive pas juste à savoir ce qu'il doit faire, à conduire son équipe. Et derrière ça, malgré tout, il revient après la mi-temps, et même dans le deuxième quart, il recommence un peu à élever son niveau de jeu, à trouver plus de place, comme tu l'as dit. Toute proportion gardée, je trouve qu'il a fait un peu un match parallèle à celui de... Alors, moins difficile au début, donc c'est pour ça toute proportion gardée. Mais sur la fin de match, il m'a fait un peu le parallèle avec Tom Brady, tu vois. Avec des bons drives bien menés à la fin, qui était propre. Un début, par contre, clairement plus difficile. Brady a pas galéré comme ça face aux Chiefs. Hein. C'est là où je...
Ah, je sais pas.
Mais en tout cas, sur la fin, je l'ai trouvé vraiment clutch, tout en sérénité, et je m'attendais pas à le voir aussi serein en fin de match par rapport à ce qu'il a connu comme début de match. Et voilà, donc...
C'est du positif. Non, mais dans les faits, c'est une bonne victoire pour préparer un Super Bowl, parce que tout ce qui pouvait aller mal par moment est allé mal, ou en tout cas, ça a été très compliqué, ça a été très dur. Et ils peuvent se sentir un petit peu miraculés, donc peut-être que ça enlève aussi un peu de pression indirectement.
Franchement, ils peuvent clairement être contents. Ils gagnent ce match. Ils vont gagner à New Orleans avec le plus mauvais match en carrière de Todd Gurley. C'était pas forcément gagné d'avance si on l'avait donné comme ça, en tout cas comme facteur d'avant-match. Donc bon.
Et ils trouvent toujours quand même des solutions. Là, on revient au coaching, hein, mais avec quand même des Josh Reynolds, des Gerald Everett qui brillent, Brandin Cooks quand même à qui il faut rendre ce qui lui appartient, parce que. Quand même, je le dis, j'ai un peu quand même des fois dit qu'il était sous-estimé. Il est encore à 7 réceptions pour 107 yards dans une finale de conf. Donc Brandin Cooks est encore là. Les Saints, donc, on va finir avec eux sur ce match. Un crève-cœur, un nouveau crève-cœur, parce que l'an dernier, on rappelle qu'ils sortent sur le Minneapolis Miracle. Donc, alors, miracle, c'est un plaquage raté hein, en français. Mais dans les faits, voilà, c'est encore un nouveau crève-cœur. Est-ce que il y a un truc aussi avec les équipes de Sean Payton depuis quelques années, qui n'arrivent plus forcément à lâcher la bride et à finir le boulot en playoff?
Tu as dit le mot karma, non? C'est pas ce que tu as prononcé? Je n'ai pas bien entendu.
Non, ah non, c'est
par rapport à Sean Payton. Je ne pense pas qu'il y ait une malédiction. Ils ont gagné quand même il y a moins de 10 ans, et à part les Patriots, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait. Donc voilà, Drew Brees est encore là l'an prochain, ils ont encore une chance de retourner au moins aussi loin, parce que honnêtement, si l'équipe change pas trop, elle a du talent partout, et il n'y a pas de raison que d'une année à l'autre, avec un coaching staff aussi expérimenté que celui-ci, ça chute complètement. C'est vrai que deux fois en deux ans comme ça, je peux plus comprendre que la pilule soit dure à avaler.
Après, c'est dur de... Oui, Sean Payton peut avoir quelquefois des petits errements d'ego, sembler un peu arrogant, etc. Là, pour moi, ça reste quand même difficile de le mettre en cause sur ce match. Et on va même dire sur les deux dernières campagnes. L'an dernier, si son safety se foire pas dans son plaquage, ils vont en finale de NFC. Et Sean Payton, il est quand même pour rien là-dedans. Et là, cette année, si les arbitres... Quoi qu'on en dise, si les arbitres font le bon call, les Saints vont au Super Bowl. et arrive au Super Bowl pas forcément avec un statut de perdant d'avance face aux Patriots. Donc,
non. Ah non. Non.
Voire même pas du tout, voire à égalité. Donc,
non, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus dur, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est très dur de se dire et de remettre en cause le coach parce que là, ça passe à tellement. Deux années de suite, ça passe à tellement rien.
Non, mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur pour cette équipe, quoi. Il mérite. Il passe vraiment pas loin. C'est une belle équipe, quand même. Il faut le dire. Ils ont bien défendu pendant une bonne partie de la saison. C'était probablement l'équipe la plus équilibrée sur le papier quand on faisait les previews des finales de conférence. Donc c'est vrai que c'est très très cruel pour eux. Drew Brees sera encore là l'an prochain. Donc s'il reste au même niveau, comme tu l'as dit Raoul, ils auront encore une chance. Petite pause et l'AFC.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Chiefs 31, Patriots 37, nouvelle victoire folle pour les Patriots, nouveau drive pour repasser devant en fin de match, égalisation des Chiefs sur un field goal, mais évidemment ils ont gagné le tirage au sort de la prolongation et ils n'ont jamais rendu le ballon, un drive chirurgical, et des Patriots qui sont quand même toujours assez incroyables. Il n'y a plus de mots, y a-t-il un mot pour décrire ces Patriots, Raoul?
Je n'en trouve plus non plus. Depuis la semaine dernière, j'ai usé de tous mes qualificatifs superlatifs pour décrire cette équipe qui est quand même, on peut dire, exceptionnelle. Et dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que rarement une équipe d'un sport collectif aura été omniprésente au plus haut niveau sur 20 ans. Ça fait quasiment 20 ans qu'ils sont là, quoi. Donc non, c'est, je pense qu'exceptionnel n'est pas galvaudé dans ce cas.
Raphaël, quand on regardait le match, tu l'as annoncé, tu as dit, ils ont gagné le tirage au sort, c'est fini.
Ah oui, ben moi je alors je, ça va faire peut-être moment un peu de je me la raconte hein, mais ça m'a rappelé vraiment le toss gagné dans le Super Bowl face aux Falcons. Je l'avais vécu dans le stade, et dans le stade au moment du toss à l'époque, tout le monde savait que les Patriots allaient clouer l'affaire en prolongation sur leur drive, et là franchement moi j'ai eu le même ressenti. Je me suis dit, ils vont ressortir un drive équivalent à leur tout premier drive du match, où pareil, ils gardent la balle 8 minutes, ils démontent de manière méthodique la défense des Chiefs. Et là, bah voilà, ça roule, des petits gains à la course, un Tom Brady qui sur 3e trouve Edelman Gronkowski. Et la machine est en route, et tu le sens, tu le vois venir, et tu vois la tête de Patrick Mahomes sur le banc quand il voit qu'il gagne pas le toss, que même lui est déjà quasiment convaincu que...
Je crois avoir vu après le toss aussi Travis Kelce qui revenait, qui avait pas l'air, vraiment sur le moment où il se retourne après le toss, tu vois son visage qui a pas l'air serein, et je crois que c'est David McCourty qui l'a très bien dit aussi. Il a dit, une fois que j'ai vu qu'on avait gagné le tirage au sort, j'étais serein, je savais que j'aurais pas trop à rebosser a priori. Ouais. Je sais plus les mots exacts, mais en gros il disait que une fois qu'on a gagné le tirage au sort, je sais que j'ai pas trop à m'en faire. Donc voilà, mais c'est leur force, qu'on en soit tous à penser ça. C'est quand même leur force. Quand t'es persuadé, c'est des trucs à la Michael Jordan. Quand il va prendre le dernier shoot et que tu dis ça va rentrer, quoi. C'est même plus tu dis oh là là, est-ce que ça va rentrer, c'est tu dis ça va rentrer.
Et surtout, quand même ça doit faire un coup à l'adversaire, parce que justement la défense, elle rentre sur le terrain en se disant merde, on va perdre. Donc déjà pour te sortir de cet état d'esprit et réussir à les arrêter pour de vrai, c'est horrible.
C'est ça. Et donc tu l'as dit, Raphaël. 3 passes complétées sur 3e tentative sur ce drive. En plus, c'est vraiment pas un drive cadeau facile, hein. Il y en a 2 pour Julian Edelman, 1 pour Gronkowski. Ils ont quand même été impitoyables, ils ont quand même été chirurgicaux. Et sur le drive aussi, puisqu'ils ont un drive en fin de match, hein, à 2 minutes de la fin pour repasser devant, ils sont menés de 4 points quand même quand ils récupèrent le ballon. Et là, pareil, c'est chirurgical. Alors, il y a une pénalité. Qui a eu interception, mais alors ça, pour le coup, moi je le dis tout de suite, je veux pas en entendre parler. Qu'on me dise, ah ouais, mais s'il n'y avait pas eu la pénalité, bah oui, mais il y avait la pénalité, il avait qu'à mettre son pied de l'autre côté, ça fait partie du jeu. Hein. Donc sinon, on refait tous les matchs comme ça. Si là il y avait eu une pénalité, si là il n'y en avait pas, bah oui, mais elle y est la pénalité. Et les Patriots, eux, ils mettent jamais le pied du mauvais côté au mauvais moment. Hein.
Donc c'est on aussi va pas là-dessus se plaindre, que ça se joue. Que les arbitres sifflent les pénalités pour une fois.
Voilà, non mais voilà, elle y est. Donc qu'on me dise pas l'interception, elle est. Bah oui, l'interception, elle est annulée, mais il y avait une pénalité. Il avait qu'à pas la mettre. Ça fait partie du jeu. Donc voilà, à la limite qu'on me parle du roughing de passeur imaginaire un peu plus tôt sur deuxième et 7, dans le quatrième carton. Donc c'est sur un drive plutôt ou c'est sur ce drive-là, j'ai un doute d'ailleurs. C'est un peu plus tôt, je crois.
Ouais, il me semble que c'est celui juste d'avant. Hein, mais...
Ouais. Mais bon, voilà, celui-là, effectivement, c'est un coup de sifflet qui est catastrophique. Après, alors si vous voulez des stats, les Patriots sont en moyenne en playoff à un roughing the passer, donc brutalité sur le passeur, sifflé toutes les 250 tentatives de passe, toutes les 250 dropbacks. C'est moins que la moyenne des Cardinals et des Vikings. Donc pour les adeptes de la théorie du complot, il y a plus de coups de sifflet pour Tom Brady. Voilà. Mais là, pour le coup, clairement, ça a l'air mauvais. Ça a l'air très mauvais. Encore une fois, ça s'équilibre un peu plus. Là, il y a pas. Je pense pas qu'il y ait de coups de sifflet aussi horribles et compliqués qui compromettent le match comme sur le Rams Saints. Messieurs, donc on va reprendre un petit peu dans l'ordre. Début de match impeccable, défensivement et offensivement. Le premier drive, c'est un clinique. 8 minutes. Ça enchaîne du sol, un peu de passe, on garde les Chiefs loin du ballon. Derrière, il y a une interception qui fait mal alors qu'ils sont aux portes du 14-0, mais ils remettent des stops. Et au final, donc 14-0 à la pause, 0 points pour les Chiefs en première mi-temps. Je crois que c'est du jamais vu depuis 2016, ou en tout cas, c'était clairement du jamais vu cette année. Il y a une vraie démonstration de maîtrise quand même en première mi-temps des Patriots.
Ouais, et tu vois, en fait, en regardant ce match-là ce midi en condensé, je me suis dit, mais en fait, les Patriots, ce qui est fantastique dans leur truc, c'est que Tom Brady, limite, ça va être fort, hein, mais ne sert à rien. Tom Brady, il est là pour passer les ballons. Non, mais à ce moment-là du match, Tom Brady, il est là pour passer les ballons aux coureurs, de temps en temps faire une petite passe de 5 yards, et en fait. C'est aussi comme ça qu'au début du match, ils arrivent à avancer de manière aussi pragmatique et régulière. C'est qu'ils gardent le ballon parce qu'il y a beaucoup de jeux au sol, parce qu'ils font des petits check-downs pour aller chercher juste la première tentative et s'arrêter là, en restant évidemment dans le terrain à chaque fois. Alors, évidemment, je me suis mis cette idée en tête en regardant, et puis à la fin, bon, bah voilà, je me suis bien rendu compte qu'il est exceptionnel. Mais sur ce début de match-là, c'est là où je trouve c'est fort, c'est qu'ils arrivent à être aussi dominants sans utiliser Tom Brady. C'est
ça. Alors, je m'inscris en faux tout de suite sur les minimisations du rôle de Tom Brady, je le dis tout de suite, parce que déjà, il y a tous les ajustements qu'il fait sur la ligne de scrimmage qui comptent, même quand c'est des passes ou des... Je vois que Raphaël, il hoche la tête, il va se démettre la nuque, mais il y a des ajustements, et il y a quand même ce rôle de leader qu'il a qui est important, et après, sur la fin de match, quand j'ai entendu certains... Il y a des pénalités où c'était des passes courtes, etc. Les troisièmes tentatives pour Edelman et pour Gronk, il faut les envoyer.
Hein. Ah non, mais la fin de match, je dis pas.
Je défie n'importe quel quarterback de rentrer avec autant de précision et autant d'assurance dans ces lancers-là. Raphaël.
Non, mais je rejoins. Là où je rejoins un peu Raoul, c'est que sur la première mi-temps, t'as vraiment cette attaque des Patriots qu'on a vu un peu depuis le début de saison, qui est une run heavy offense, vraiment qui est basée sur la course, et c'est la course qui stabilise le jeu et qui ouvre et qui crée les brèches. Et donc finalement, c'est vrai que quand c'est comme ça, mais en plus, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif de le dire, parce que ce qui compte, c'est de gagner en football américain.
Bien sûr.
Donc les Patriots utilisent ce qu'il faut, parce que à l'heure actuelle, il s'avère que peut-être la solution la plus efficace pour installer leur jeu, pour avancer, c'est de donner la balle à Sonny Mitchell, de profiter des brèches créées par une ligne offensive qui est toujours aussi incroyable. À un moment, faudra. Enfin, c'est une ligne offensive qui est composée de joueurs. Il y en a peut-être un maximum du premier tour, et les mecs arrivent toujours à jouer parfaitement parce qu'ils sont coachés admirablement bien. Mais de toute façon, ça, c'est une récurrence chez les Patriots sur toutes les positions à peu près. Donc vraiment, c'est juste qu'effectivement, sur ce côté-là, Brady, essentiellement en première mi-temps, il fait des end-off, il fait des petits check-downs, il va chercher sur troisième tentative quand il y a besoin d'aller chercher. Mais ce qui est tout à son honneur, attention.
Oui, bien sûr.
Tout le monde, Blake Bortles ne va pas le faire chercher la troisième tentative. Hein, donc c'est là où on voit la différence. C'est là où on voit aussi une différence. Mais cette année, les Patriots, l'élément central de leur attaque pour aller gagner, à mon sens, c'est pas Tom Brady. Et là, ils l'ont montré sur cette première mi-temps.
Mais alors, on va dire que je le défends encore. Hein. Mais justement, je pense que c'est aussi ça sa grande force, c'est qu'en effet, il n'est plus la mitraillette à la passe qu'il était en 2007. Mais c'est aussi sa force, c'est qu'il ne veut pas plus. Lui, il veut juste gagner.
Ah oui,
il est très content de faire ça.
Non, mais c'est...
Ouais, mais tous les quarterbacks ne peuvent pas dire la même chose.
Ah ben non.
Tous les quarterbacks et toutes les stars NFL, on le voit avec certains. Et ça aussi, c'est une énorme force. Quoi, de dire, moi, je m'en fous tant que j'ai juste la troisième tentative à convertir.
Non, mais il n'y a qu'à voir sa joie de la victoire à la fin du match qui est encore plus importante que quasiment tous ses partenaires, alors que c'est lui le plus titré, le plus... qui a fait le plus de finales.
Ouais.
Donc ça, effectivement, c'est cette envie de victoire fait qu'il accepte des fois de peut-être se mettre un peu en retrait. Par exemple, cette saison, par rapport à un Sonny Mitchell qui est pour moi vraiment la révélation offensive des Patriots cette saison, celui qui apporte ce plus. Il y a des stats, hein, quand les Patriots, notamment en playoff, courent plus de 100 yards, ils ne perdent pas. Bon, bah voilà, encore une fois, ils ont couru plus de 100 yards, ils n'ont pas perdu. Mais voilà, et après, pour revenir plus globalement sur la première mi-temps, à mon sens, c'est...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est là où ils gagnent le match. C'est vraiment sur cette première mi-temps où ils mènent 14-0, où ils prennent les points quand il faut les prendre. Alors il y a peut-être ce drive où effectivement Brady force un peu sur l'interception quand il veut envoyer la passe à Gronkowski, mais globalement le moment où leur défense a réussi à un peu tenir Patrick Mahomes, c'est le moment où les Pats ont en mis 14 et n'ont pas pris de points. Quand Mahomes n'était pas très bon, les Pats ne prenaient pas de points, ce que les autres équipes, quand Mahomes n'était pas bon, prenaient un minimum de points. Eux, ils le font pas, et à mon sens ces 14 points là c'est ce qui te permet de pas d'être serein en fin de match, mais de pouvoir faire un tête-à-tête, d'avoir toujours la chance de pouvoir repasser devant les Chiefs. Donc voilà, et puis cette première mi-temps, c'est un modèle en termes de coaching défensif, offensif. Hein,
c'est Bill Belichick, le MVP de ce match.
Ouais, bah pour moi, encore une fois, alors certains diront ouais, mais non, parce que les Chiefs mettent quand même 30 points en fin de match, ils auraient pu perdre. Mais je pense que la fin de match, c'est arrivé un peu dans ce que le sport représente peut-être de plus beau, c'est que des fois les plans, le coaching est dépassé par une sorte de dynamique, d'ambiance où ça tire à tout va, où les joueurs se tirent vers le haut. Et...
Il y a 24 points pour les Chiefs dans le dernier quart temps.
Voilà, non, mais tu vois, je suis même pas sûr que ce soit tant la faute du coaching que juste des Chiefs qui étaient un Patrick Mahomes qui avait trouvé le rythme et qui était juste trop fort pour être arrêté vraiment.
Ouais, c'est parce que Patrick Mahomes fait on peut partir là-dessus tout de suite. Patrick Mahomes s'est quand même battu comme un chien, quoi. Ouais, il est à 16 sur 31, 295 yards, 3 touchdowns. Il y a des erreurs, il y a un Damian Williams qui est raté sur une passe dans le deuxième quart par exemple, qui aurait pu être importante. Il y a un fumble en fin de premier quart, mais alors il s'est battu, il a jamais paniqué, il a réussi des gros gains en fin de match, il était là. C'est quand même un superbe match. Alors pas fondateur parce qu'il gagne pas, mais vraiment il y a aucun doute sur Patrick Mahomes pour l'avenir des Chiefs, quoi,
c'est
maintenant.
Clair.
Mais même s'il y en avait pas vraiment avant dimanche.
Mais tu vois, Raph, tout à l'heure tu comparais le match de Jared Goff à celui de Tom Brady. Moi je trouve justement au contraire que le match de Jared Goff, moi, il me rappelle celui de Mahomes aussi, dans la mesure où certes il gagne pas au bout, mais il arrive malgré un début terrible à se battre pour revenir et à réussir à égaliser. Ils n'ont pas la balle en prolongation, donc ils n'ont pas la chance d'aller égaliser. Et ça, cette règle-là, moi, elle me rend toujours fou, mais bon, bah, c'est comme ça. Et rien ne dit d'ailleurs que s'il avait récupéré un ballon aussi, il n'aurait pas été gagné au bout. Donc honnêtement, Mahomes, c'est peut-être le meilleur match de sa carrière, parce qu'à ce niveau-là de la compétition, réussir à faire ça après une première mi-temps terrible, c'est hyper fort.
Ouais, vraiment l'avenir, à mon avis, s'annonce quand même. S'ils arrivent à bien construire, à continuer à construire autour de Mahomes, ça s'annonce assez brillant du côté de Kansas City. On va dire que je cherche un peu la polémique, tout ça, mais pour moi, Mahomes était le meilleur quarterback ce week-end sur le terrain en termes de talent.
Ça se défend, ouais.
Franchement, ce qu'il a fait, je me rappelle d'un jeu où il prend la pression d'Hightower, il le laisse venir à lui jusqu'au dernier moment pour lancer la passe au tout dernier moment sur un de ses joueurs en troisième tentative. Enfin, il se mange le plaquage derrière, mais il a fait exprès vraiment de laisser Hightower venir pour libérer un angle de passe. Enfin, c'était une grosse, grosse prestation. Dommage pour lui que pendant toute une mi-temps, lui et Andy Reid n'aient pas réussi à trouver la clé pour déstabiliser un peu le game plan de Bill Belichick, parce que ses 14 points de retard à un moment finissent par peser. Parce qu'en plus, la défense s'est épuisée à être longtemps sur le terrain. Ah, ça aussi, ça doit jouer mine de rien à la fin du match. Mais non, c'était quand même un très, très gros match.
Et puis, il n'a pas été aidé. La ligne, en tout cas, n'a pas été à son avantage devant lui. Tu parlais de Tom Brady tout à l'heure. La stat pour Tom Brady, c'est qu'il a été sous pression sur 10,9% des snaps, ce qui est que dalle quand même. Mmh. Alors que Patrick Mahomes, et zéro sac hein, pour Tom Brady, évidemment. Alors que Patrick Mahomes, lui, a été saqué 4 fois, dont 2 par Kelvin Neuil, un fumble forcé aussi par Kelvin Neuil, qui a quand même été très en vue pour les Patriots. Ouais. On en reparlera probablement encore plus dans la preview du Super Bowl des, entre guillemets, no-name maintenant, parce qu'ils vont finir par en avoir un des défenseurs des Patriots, mais il avait ça en face de lui aussi quoi. Patrick Mahomes était quand même en galère en termes de pression, et comme tu l'as dit, il y a des fois où il a dû en manger hein, des taquets.
Ouais, il a vraiment payé. C'est le côté droit de sa ligne qui a souvent été en difficulté hier soir. L'absence d'un joueur comme Laurent Duvernay tardif sur la ligne a vraiment eu un impact sur ses Chiefs. Après voilà, ça a été encore très bien coaché par les Patriots. Et puis au-delà de la ligne, moi je j'aime pas trop taper sur Andy Reid, mais je pense qu'il a quand même fait quelques erreurs de coaching.
Tyreek Hill.
Les Chiefs ne courent que 12 fois. On comparait, mais les Rams ont couru 26 fois même en étant derrière au score, parce qu'il fallait imposer tout le temps, garder un côté. Danger des deux côtés du ballon. Là, c'était un peu trop unidimensionnel à mon goût. Après, Reed s'est bien adapté en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, elle est vraiment difficile. Et à mon sens, par contre, je ne comprends pas pourquoi Andy Reed a fait le choix de laisser le ballon aux Patriots pour ouvrir le match.
Oh, ça, il y a beaucoup d'équipes. Les, dans le match précédent, c'était le même choix.
Ouais, mais alors. Je trouve ça vraiment étrange de donner aux Patriots l'occasion d'imposer leur tempo de suite, en fait. Je trouve ça étrange. Va jouer avec ta force en premier. Ta force, c'est l'attaque. Mmh. Envoie ta force en premier pour marquer tout de suite les esprits. Et
ouais, mais c'est pour avoir le ballon à la mi-temps, en fait, qu'ils le font. Pour l'avoir en deuxième
mi-temps. Ouais, mais si tu mènes au bout de la première, si tu marques d'entrée, peut-être. Enfin, après, ils auraient peut-être pas gagné le match, ils auraient peut-être pris une interception dès le premier drive, j'en sais rien. Mais moi, ce principe de ne pas commencer avec sa force en premier sur le terrain, c'est quelque chose que je trouve très étonnant. Mais après, c'est...
Est-ce qu'il n'a pas manqué un peu de Tyreek Hill aussi quand même? Moi, on n'a pas vu Tyreek Hill. Il a une réception pour 42 yards. Je me rappelle pendant le match d'avoir entendu dire pourquoi on ne voit pas Tyreek Hill sur des jet sweeps au sol ou des choses comme ça. Là, j'ai les stats sous les yeux. Le dernier match où Tyreek Hill n'a pas eu de course, c'était contre les Rams, justement, au mois de novembre. Sinon, il avait au moins une ou deux courses par match jusque-là.
Mais il n'est pas blessé un peu, Tyreek Hill?
Non. Ah non, pas officiellement, en tout cas.
Sur sa réception de 40 yards, tu vois qu'il est pas. Il y avait un peu de vitesse quand même. Hein,
Contre les Colts, au tour précédent, une course, 36 yards, un touchdown. Contre les Raiders, sur le dernier match de la saison régulière, une course, 15 yards, un touchdown. Donc, les deux dernières, en plus, c'était pour deux touchdowns.
Ouais, moi j'ai été vraiment étonné de pas le voir utiliser de manière un peu plus originale que ce qu'il n'a été. Bon, après, voilà, c'est toujours pareil. Hein. C'est un peu facile depuis le canapé et depuis cette table de critiquer hein, sur le banc quand t'affrontes Bill Belichick et ses plans défensifs. C'est peut-être les solutions paraissent peut-être moins évidentes. Puis ils ont des angles qu'on voit pas vraiment, et Tyreek Hill était souvent pris par deux joueurs adverses en défense. C'est pas non plus évident. Hein,
Est-ce que t'oses insinuer que le fait d'avoir un micro nous rendrait pas plus compétents que Andy Reid? Moi, je pensais que direct, comme on avait un micro, on était considérés comme plus compétents et tout ça. Bon,
dommage.
Ça marche. On est d'accord quand même sur le fait qu'il y a un avenir plutôt brillant pour cette équipe de Kansas City, les axes de renfort. J'ai pas dit un mot, mais sur la défense, quand même, c'est aussi une des faillites de la soirée. Ils prennent plus de 500 yards. On se demandait avant le match, Raphaël, dans l'émission du jeudi, si on allait voir la défense de saison régulière ou la défense de play-off. Bon, là, a priori, c'était plus proche de la bonne défense de saison régulière quand même, avec plus de 500 yards encaissés et 0 sac.
Ouais, mais dans la saison régulière, ils arrivaient à gagner ces matchs-là, justement, où ils prenaient 500 yards. Là, face aux Patriots, c'est quand même plus difficile.
Je suis pas sûr qu'ils en aient pris autant cette saison, en fait.
Ouais, et puis ils ont perdu des gros matchs en saison régulière. Ils ont perdu contre les Rams, ils ont perdu contre les Patriots, ils ont perdu contre les Chargers, ils ont perdu contre les Seahawks. Et les Rams et les Patriots, ils leur avaient mis un bouillon offensif. Hein.
Après, à l'extérieur, hein, donc c'est toujours à...
Oui, mais ils faisaient froid pareil. Il faisait froid pareil, c'était à l'extérieur.
Ouais, non, mais oui, ils ont. Et puis, ils encaissent. 80... De mémoire, c'est 94 jeux offensifs pour les Patriots. Enfin, 43 minutes de possession pour les Patriots. Il y a un moment.
Avec la prolongation, quand même.
Avec la prolongation, c'est pas loin d'être miraculeux d'avoir une chance de l'emporter sur ce match en étant autant dominé en défense, j'ai envie de dire, hein, sincèrement.
Oui, ils sont hyper explosifs. On l'avait un peu dit aussi dans la preview. Il va falloir un peu de maîtrise à tout ça, un petit peu de jeu au sol plus régulier.
Un ou deux cornerbacks et puis...
Voilà, des corners, ça va être pas mal. Mais oui, il y a des belles choses à faire quand même. Pour les Patriots, on va évidemment en reparler dans la preview. Un petit mot quand même sur les stats. 9e Super Bowl disputé en 19 ans. Ça fait quasiment un an sur deux, c'est juste démentiel. 3e Super Bowl disputé de suite. Seulement deux équipes l'avaient fait, les Bills au début des années 90 et les Dolphins dans les années 70. Les Bills en avaient même joué 4 de suite.
Mais ils les avaient perdus.
Et ils avaient tous perdu, oui, ça c'est une autre chose. Et les Patriots jouent aussi leur 4e Super Bowl en 5 ans. C'est du délire, c'est de l'incroyable. Il n'y a plus de mots là aussi. Hein.
Le dernier où ils sont pas, c'est le Broncos-Panthers
Broncos-Panthers, ouais. Mm. Wow.
Oui, ils perdent en finale AFC. Hein, donc,
oui, c'est ça, ils perdent contre les Broncos de Peyton Manning, ce qui n'est pas honteux. Et la défense des Broncos, surtout à l'époque, ce qui n'est pas honteux.
Non, bah, énorme équipe des Patriots. Ouais, il n'y a pas grand-chose. À l'image de tous ces joueurs, on n'en a pas parlé là dans ce résumé, mais Julian Edelman a encore été
Il est monstrueux.
En termes de clutchitude en receveur.
En défense aussi, il y avait une stat que je trouvais sympa, c'est Devin McCourty et Stephon Gilmore, à eux deux, n'ont autorisé qu'un seul first down.
Voilà. Non, mais oui, ouais, tout.
Gronkowski aussi, qui sort bien de sa boîte en réception et en bloc sur ce match-là, qui a encore été monstrueux.
Mais oui, non, mais c'est. Enfin, on va pas refaire des débats éternels et insolubles, mais c'est quand même la plus grande dynastie de l'histoire de ce sport. Il n'y a pas de.
Ah, bah, de ce sport largement. Et puis,
oui, en dynastie, ouais.
On peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais même avec d'autres sports, honnêtement, c'est rare de voir une telle domination.
Mais alors, je me faisais la réflexion ce matin, parce que évidemment, ayant traité un peu la NBA, les comparatifs, ils sont tout le temps en train de gagner. Bah tiens, en ce moment, il y a les Warriors qui sont tout le temps en train de gagner. La différence quand même fondamentale pour moi, c'est que les Warriors gagnent, alors évidemment sur du talent pur, évidemment sur du coaching, mais maintenant, parce qu'ils ont, on va pas rigoler, ils ont un 5 majeur avec 5 All-Stars, grosso modo, donc ou 4, allez. La différence, je trouve, qui est incroyable des Patriots, c'est qu'on a vraiment l'impression que Bill Belichick peut prendre n'importe qui et gagner tous les ans.
C'est ça. Mais les Warriors, ça fait combien de temps qu'ils gagnent aussi?
Bah, ça fait 5 ans, non?
Ouais, non, mais voilà, là, on parle de 20 ans pour les Patriots. Donc,
oui, en plus. Non, mais voilà, mais et on en parlait tout à l'heure, c'est Bill Belichick qui est MVP, évidemment en étant indissociable de Tom Brady, mais c'est incroyable ce qu'il fait à la tête de cette franchise. Petit jingle qui fait peur et l'actu.
Live from Studio 3C and Rockefeller Center, this is Today in New York.
L'actu, messieurs, parce que on a de la breaking news, comme on dit chez Channel Info, c'est que les affiches pour les matchs à Londres l'année prochaine ont été annoncées. Alors, on n'a pas les dates, on a juste les affiches. On a 3 rivalités de division avec un Buccaneers Panthers, un Jaguars Texans. On n'a que 2 rivalités affiches. De division, puisque la 3e c'était Mexico. Donc, on en a 2, on a Buccaneers Panthers, Jaguars Texans, on a Raiders Bears, qui sera quand même des petites retrouvailles, John Gruden, Khalil Mack, qui sont quand même pas vilaines, et puis un Rams Bengals avec donc un des finaliste du Super Bowl, peut-être le vainqueur, on saura dans une semaine, ce qui pourrait quand même être sympa. Bon, on n'a pas un milliard de choses à analyser à ce moment-là, juste savoir si vous êtes content de ces affiches, laquelle vous avez envie le plus de voir et laquelle vous avez le moins envie de voir.
Moi, je suis content qu'il y ait des affiches de division en NFL parce qu'on sait que c'est des matchs qui comptent vraiment dans la saison régulière et donc ça veut dire qu'il y a un intérêt de la NFL pour Londres. Moi, je suis content de voir Panthers Buccaneers parce que c'est un match qui peut donner tout et n'importe quoi. Donc, c'est assez rigolo. Moi, je pencherais bien pour celui-là pour l'instant.
Celui-là est pas mal. Raphaël, ton préféré?
Ouais, je serais aussi sans doute allé sur celui-là. J'ai beaucoup de hype autour de Bruce Arians qui va coacher Jameis Winston, donc ça m'intrigue pas mal comme duo. Mais même le Texan Jaguars, si les Jaguars ont un nouveau quarterback, ouais. Ça peut être funky.
Ouais.
Avec JJ Watt et Deshaun Watson à Londres, c'est sympa
puis,
quand même.
Ouais, ouais. Puis de toute façon, oubliant pas que d'une saison à l'autre, une équipe NFL peut être toute mauvaise ou toute très bonne. Enfin, les Bears, on les aurait eu l'an dernier. Pour cette année, on serait dit, mon Dieu, c'est naze. Et puis. Les Bengals, ça se trouve, vont nous surprendre l'an prochain, même si j'y crois pas, mais.
Les Raiders vont peut-être nous surprendre aussi. Après, hein,
oui, voilà.
Ouais, le Raiders Bears, il a un petit potentiel aussi.
En vrai, je troll un peu, mais je suis d'accord.
En termes de drama. Et puis le Rams Bengals, bon, c'est le potentiel boucherie, hein, un petit peu.
Bah, c'est ça, c'est cool de voir, comme tu l'as dit, une des deux équipes qui était au Super Bowl, peut-être le champion en titre, qui va venir administrer une petite fessée aux Bengals, histoire de prouver un peu tout ce qu'ils savent faire au public londonien. Non, c'est cool. Franchement, bon, c'est des affiches sympas. Et puis ça redevient 4 matchs. Contrairement aux 3 qu'on a eu cette année, donc c'est qu'il y a une volonté encore une fois de la NFL de faire quelque chose dans ce marché-là.
Allez, non. Après, comme il l'a dit Raphaël, ça peut changer très vite. Peut-être que les Bengals vont nous surprendre sur la free agency ou avoir un rookie au top. Non, et puis peut-être.
En tout cas, on se le souhaite. Hein.
Non, bon, alors on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. Messieurs, Raphaël, ton top.
Je vais laisser Raoul commencer parce que j'ai un trou.
Tu sèches, j'en ai plein si tu veux.
J'ai un trou de mémoire à cause de la fatigue.
Moi, mon top, c'est un joueur qui n'a pas gagné de cette semaine, mais je trouve que ce que font les Saints avec Taysom Hill, c'est quand même hyper fort. Et en regardant ce match-là, je me suis dit, en fait, c'est ça aujourd'hui qui peut être peut-être une des choses qui va changer de manière assez drastique dans les prochaines saisons. Mais des types qui sont capables de jouer plusieurs postes et du coup d'être des menaces complètement différentes sur chaque jeu qui force la défense à essayer de s'adapter et pas toujours réussir. Moi je pense que ça peut apporter énormément de trucs nouveaux en NFL et ça peut être hyper excitant à regarder. Moi j'ai trouvé que la manière dont il joue tous ses postes c'est plutôt de la qualité et je suis content de voir ça en NFL.
Et dire que Tim Tebow a refusé le rôle, quoi.
C'est dommage, hein.
Raphaël.
Ouais, c'est un peu facile, mais le niveau global de ces finales de conférence après des playoffs qui ont été un peu moyenne. Ouais. On a eu du suspense, du drame, des belles actions, un peu tout ce qu'on veut dans un week-end de finale de conférence. Donc ça a permis à beaucoup d'entre nous d'être tenus éveillés jusqu'à 4-5 heures du mat. Donc c'est déjà pas mal du tout parce qu'on a eu des finales de conférence. Je me rappelle d'un Giants 49ers en finale NFC. Il y a quelques années, qui avait été affreux avec Deep Hunt pour finir ou quelque chose comme ça. Enfin, donc voilà.
C'est vrai qu'il y a eu quelques purges. Moi, alors, j'ai un double top. J'avais Greg Zuerlein, mais je l'ai dit tout à l'heure. J'avais Brandon Cooks, mais je l'ai dit tout à l'heure. Alors, du coup, je vais dire. Comment il s'appelle ? C'est Nickel Robbie Coleman. J'ai toujours du mal avec l'ensemble. Parce qu'on a dit est-ce qu'il y a faute ? Est-ce qu'il n'y a pas faute ? Je pense que quand le mec, devant la presse, regarde les images et dit ah ouais, carrément, il y a faute. Je pense qu'on est à peu près tous fixés. Donc, j'ai apprécié l'honnêteté. Et évidemment, Todd Gurley en mention spéciale pour ce troll de très, très, très haut vol sur Instagram qu'il fallait vraiment oser. Où il a mis une photo de lui qui échange son maillot avec l'arbitre de la rencontre. Je pense que là, en termes d'humour et de recul, on peut pas faire mieux. Donc c'était pas mal. On va dire que c'était mes tops de la semaine parce que j'ai déjà fait plein de compliments sur Brady et les Patriots, donc je vais pas les remettre en top. Raphaël, ton flop.
Mon flop, je vais laisser la parole à Raoul.
Je le regarde pour
Désolé,
savoir si je vais me laisser
à deux doigts du.
Moi, mon flop, mais je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est. Je trouve encore une fois ridicule cette règle des prolongations qui ne laisse pas la chance à une attaque d'avoir le ballon. Je comprends hein, la logique de dire « ouais, bah, ta défense doit te rendre le ballon », mais c'est pas normal qu'un pile ou face détermine à ce point la fin d'un match surtout aussi important.
Ouais, mais est-ce que c'est pas la continuité du match ? Parce qu'au final, il l'avait crevé pendant le match, la défense adverse. Je me fais l'avocat du diable.
Non, mais oui, sur ce cas-là peut-être, mais de manière générale, cette règle, elle n'est pas juste. Aujourd'hui, pour qu'un sport soit plus agréable à regarder, qu'il y ait un peu c'est pas justice le mot, c'est très fort, mais qu'il y ait un peu de chance des deux côtés, qu'on accorde les mêmes chances aux deux, quoi.
D'autant plus en play-off, moi, je trouve. Ouais. Encore en saison régulière, il faut finir les matchs, on veut pas qu'il y ait de match nul. Le premier qui a la balle, s'il gagne tout de suite, et puis comme ça, c'est réglé, hop, on perd pas de temps. En play-off, ça serait pas déconnant de laisser une chance de plus à l'attaque. Ça serait pas déconnant.
Mais, après, mais quelle solution dans ce cas-là? Ça veut dire qu'ils repartent des 25 yards
Pourquoi la règle, c'est tu joues, donc tu fais comme là, tu marques et tu fais, si tu marques un touchdown, l'autre équipe doit absolument marquer un touchdown. Si tu marques un field goal, l'autre doit marquer un field goal pour continuer, perd si elle marque rien ou gagne si elle met un touchdown.
Alors pareil, je me fais l'avocat du diable et le contradictoire, mais du coup l'équipe qui passe en deuxième, elle a un avantage parce qu'elle peut jouer toutes les quatrièmes tentatives s'il y a eu un touchdown.
Oui, bah oui, mais dans ce cas-là, les autres ont qu'à jouer la quatrième tentative à chaque fois aussi, puisqu'ils savent que les autres vont le faire, tu vois.
Dans ce cas-là, tu prends pas, tu décides de pas prendre le toss et tu joues en deuxième
de recevoir.
Et le système, moi j'aime bien défendre le système NCAA avec les attaques qui démarrent directement. Alors
des trucs de 25 yards direct.
C'est genre aux 30 yards, tu marques.
Là, tu désavantages beaucoup trop les défenses. Enfin, 30 yards, non.
On n'est pas en NCAA ici, monsieur.
Il y a un petit côté tir au but, bing-bing, avec des émotions fortes que je trouve assez marrant pour le
coup. Ah bah si nous faisons des tirs au but avec les kickers, on va se marrer, hein.
Non, avec les
O-line. J'ai dit non. Les kickers, on a dit on arrête, hein. Raphaël, ton flop, du coup.
Bon, ça va être dur, hein. Je sais que ça va pas plaire à plein de gens, mais la première mi-temps d'Andy Reid, en termes de coaching, m'a vraiment déçu. Voilà, je pensais qu'il avait un peu appris de ses différentes erreurs et cette première mi-temps, à mon sens, est vraiment ratée avec, en plus de mémoire, un time-out utilisé absolument n'importe comment.
Le flop pour moi, c'est pareil, j'avais pas trop d'idées très honnêtement, donc j'ai mis l'arbitrage. Mais alors c'est autant l'arbitrage, parce que là pour le coup c'est flagrant et il faudrait quand même au bout d'un moment, alors autant les décisions que le temps que ça prend à défaire d'ailleurs, parce que je me rappelle en regardant le match Patriots Chiefs, c'est un moment où ça commençait à s'allonger sérieusement quand on renvoyait tout. Je pense qu'il doit quand même y avoir un système assez moderne et technologique. Raphaël, t'as trouvé quelque chose d'autre là?
Ouais, non, mais je te laisse terminer.
Parce que j'allais dire, il doit y avoir quand même un système suffisamment moderne pour qu'on foute une oreillette dans l'oreille de l'arbitre et qu'il y ait un mec qui lui dise ça c'est bon, ça c'est pas bon, et on passe à la suite. C'est juste que je trouve ça dommage de parler plus des arbitres que des matchs, les lendemains de match. Donc j'aimerais bien qu'au bout d'un moment, la NFL, autant on essaye sur le site de pas être trop dans les polémiques d'arbitrage, autant là on pouvait pas y échapper et c'était normal. Mais j'aimerais bien qu'on puisse parler d'autre chose, donc que la NFL quand même corrige le tir un minimum, parce que là il y a eu beaucoup d'approximations sur ce match.
Est-ce qu'on pourrait, avant ton flop, parce que c'est pour rebondir là-dessus, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une possibilité de challenger, parce que du coup ça veut dire que tu challenges les décisions arbitrales, ce qui est un peu bizarre, mais que tu puisses dire, genre, enfin, que à ce moment-là tu as une vidéo, que tu puisses regarder la vidéo, quoi.
Non, mais que là, tu vois, genre sur l'interférence, qu'il y a un mec dans un truc vidéo qui parle à l'arbitre dans l'oreillette, qui dit il y a eu une interférence, tu la ramènes, tu la siffles. Enfin, ouais, je veux dire, d'accord. Au bout d'un moment, on a exclu Zidane pour un carton rouge sur vidéo en 2006. Je pense que la NFL, 13 ans plus tard, peut trouver un moyen de. Voilà, non, mais.
Tricheur,
Raphaël, tu voulais rebondir dessus.
En vrai, c'était un peu lié à toute cette discussion. Je comprends quand même de moins en moins pourquoi un coach ne peut pas utiliser de challenge dans les deux dernières minutes du match.
Ah oui, ça aussi, oui.
Et je pense que les passes interférences doivent être révisables par les coachs. Je comprends pas comment un show aussi important que la NFL, qui te permet de regarder la vidéo pendant 58 minutes, les deux dernières minutes du match, ne donne plus l'autorisation au coach. C'est quand même assez déconnant d'avoir une saison entière de NFL qui se joue sur une. Là-dessus. Enfin, voilà.
Mais parce que l'explication, c'est de dire tout est revu. Oui, dans ce cas-là, revoyez tout.
Bah oui, c'est ça.
Ça aussi.
Bon, je me doutais bien que Raphaël voulait pas rebondir sur l'expulsion de Zidane, il était trop content que l'Italie gagne.
Bah tiens. Non, même pas en vrai, même pas.
Ah, c'est vrai. Bon, j'ai rien dit alors. Et on
passe aux questions. J'étais 50-50.
Comment ?
Donc t'étais 50% triste.
50% triste, 50% heureux. Bon, c'était une bonne finale.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Allez, on passe à la suite. Messieurs, les questions pour terminer cette émission. Une bonne question de Dirty Fighter. Les Patriots et Brady Belichick ont participé à des matchs de playoff légendaires. Quel est votre top 5 des plus beaux matchs de playoff avec Brady sur le terrain ?
Wow.
C'est presque une question pour la preview du Super Bowl, ça.
Bah, moi je pense que c'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse et qu'on y réponde bien, parce que là j'en ai pas 5 comme ça.
Bah hein. Franchement, son Super Bowl contre les Rams, son Super Bowl contre les Falcons, c'est
contre les Seahawks.
Hein ?
Contre les Seahawks aussi.
Les deux contre les Giants, voilà, top 5.
Et puis là, si tu veux troller, tu dis et celui contre le match contre les Raiders dans la neige aussi.
Bah, celui-là, il est légendaire. Hein.
Ah bah ça, oui.
Ah, il est légendaire. Question de Brady Namnam. Hello la team, pensez-vous qu'en cas de victoire au Super Bowl, Brady et ou Belichick puissent prendre leur retraite ou vont-ils continuer à jouer jusqu'à ce que l'un des deux meure? J'aime bien cette idée.
Franchement...
Et j'aime bien que ce soit jusqu'à la mort de Tom Brady dans l'idée.
Si ça veut dire que Belichick vivra jusqu'à 120 ans.
Ce serait spectaculaire.
Mais... Bah, moi, je comprends. Enfin, je peux comprendre qu'on veuille s'arrêter au top et tout, mais ils sont tellement au top qu'honnêtement, autant continuer, non ?
Par contre, je précise, hein, quand je disais jusqu'à la mort de Brady, je voulais dire qu'il vit vieux. Hein, je voulais pas dire que je lui souhaitais une mort rapide.
Bah oui, non.
oui, non, mais moi, je les vois absolument pas s'arrêter cette année.
Non, pas cette année, surtout si Breeze continue, si Rivers continue, si tous ces mecs-là continuent, il n'y a pas de raison que Brady soit arrête, quoi.
Et en même temps, je ne les vois pas non plus spécialement s'arrêter maintenant, mais je pense que quand ça arrivera, en tout cas du côté de Bill Belichick, ça sera au moment où personne ne s'y attendra et quand lui l'aura décidé vraiment, quoi.
Oui. Oui, en pleine saison, c'est vrai qu'on parle quand même d'un mec qui a démissionné des Jets au bout d'une journée en écrivant ça sur une serviette en papier. Donc
sincèrement, Belichick pourrait démissionner un premier jour de camp d'entraînement juste après une victoire au Super Bowl, que je ne serais pas le plus grand des étonnés non plus. Donc,
À la Bielsa, un peu, tu sais. Il s'en va à n'importe quand.
Jeff The One avec une question qui est pas bête du tout. Pour féliciter le champion en titre, la NFL ne devrait-elle pas localiser le Super Bowl chez le champion sortant? Tout le monde a l'air de s'en foutre du Pro Bowl. Pourquoi ne pas le faire à Londres? Alors ça, c'est deux questions séparées. Mais le Super Bowl chez le sortant?
Non.
Bah,
bon, en termes d'organisation, en effet, c'est compliqué, déjà dit Camille.
Si c'est les Packers, on va pas jouer le Super Bowl à Lambeau, c'est impossible.
Bah, il faut aimer avoir froid.
Ouais, non, mais moi je suis d'accord, moi j'adorerais. Hein.
Non, puis de toute façon, ça pose le problème aussi de la distribution entre les villes. Imagine, là, dans le cas des Patriots, si tu gagnes 2-3 Super Bowls de suite, ça veut dire 3 années de suite, ça se rejoue à New England. Enfin, juste en termes pour les autres stades, se répartir le Super Bowl, c'est pas.
Puis ce serait dommage que le Super Bowl ne revoie jamais Jacksonville, alors que c'est une ville ensoleillée quand même.
Ouais. Puis c'est leur seule chance de le voir. Donc,
Et sinon, le Pro Bowl à Londres?
Ça, je serais chaud, ça.
C'est pas déconnant. Hein.
Surtout pour les activités du samedi.
Oui, clairement. Overrated, les victoires des Pats, ça ramène beaucoup de clics à TDA, non, point d'interrogation. mais on va pas se mentir, hein. Moi, j'ai aucun problème à le dire. Les Patriots, en effet, sont une des équipes avec une des plus grosses fanbases en France. Donc, clairement, d'un point de vue stratégique, stratégico-commercialo, trafico,
plus ils vont loin dans la...
Comment ?
Ça faisait un peu narcos la façon dont tu disais.
Ça faisait un peu narcos, ouais. Bon, mais clairement, stratégiquement, plus ils vont loin dans la saison, plus le City marche bien. Hein, je vais pas mentir. Question suivante. Alors, je parcours un peu à la volée. Hein, on est lundi. À part la couverture de Madden qui a des problèmes dans la saison et le trophée MVP qui ne gagne pas le Super Bowl, connaissez-vous d'autres malédictions de la NFL ? C'est déjà pas mal quand même.
Et il n'y a pas le fait que les gagnants du Super Bowl sont toujours en blanc ? C'est pas ça l'histoire ?
Je crois que c'était une petite tendance de ces dernières années, ouais, mais ça a été trahi par les Patriots l'an dernier déjà, puisqu'ils étaient en blanc, je crois.
Ah oui.
Quel est le top 3 des joueurs NFL sans bague de champion ? C'est une question d'Honoris.
C'était quoi le début de la question, pardon ?
Le top 3 des joueurs NFL sans bague.
La Danian Tomlinson.
Tony Gonzalez.
Dan Marino.
Et Marino, ouais, ça me paraît pas mal.
J'ai pas entendu votre deuxième.
Tony Gonzalez, moi je disais.
Ah, c'est pas mal, ouais, en effet. Honoris, toujours, parlez-nous de la première action depuis que vous regardez l'NFL qui vous a fait lever de votre canapé en criant sur l'arbitre.
L'arbitre.
Je me rappelle du Dez Bryant à Green Bay.
Bah, la fameuse le truc où il fait le football move, c'était ça, non? À ce moment-là, ils ont dit non, c'était pas un football move et son
ouais,
terrain,
le catch quoi. La réception de Dez Bryant. Là,
ouais, la réception, ouais. Non, parce que j'ai pas crié sur le moment, mais.
Je survole les questions, il y en a une, c'est plus vraiment une question parce qu'on y a déjà répondu, mais Raoul, tu as le soutien de Bud Fumbler. Comment peut-on encore accepter qu'en 2019, une finale de conférence puisse se jouer sur un pile ou face? Entre ça et le no-call de l'autre match, triste image renvoyée par la NFL malgré la qualité des matchs.
Amen, brother.
Ah bah oui, il y a des questions, hein. Tu bluffes Marteau, ni les Rams méritent leur place au Super Bowl au vu du match contre les Saints, sans parler de l'interférence non sifflée, ils n'ont pris quasiment aucun risque sur le match. Un seul retour de coup de pied, pas de quatrième et goal pour passer devant alors qu'ils sont sur la ligne de touchdown. C'est vrai qu'il y a eu ce choix de Sean McVay d'égaliser plutôt que de passer devant sur quatrième et un à un yard de la ligne. Moi honnêtement j'étais pas forcément froissé par le truc, ça, c'est presque game over quoi si tu perds derrière et que les Saints avancent. Hein.
Oui, et puis alors par contre dire qu'ils ont pris aucun risque, le fake punt sur le 30 yards.
Oui, le fake punt.
Oui, et puis on peut pas dire qu'ils ont volé leur victoire non plus. Enfin, il y a un moment.
Question de Saints Kika. Salut l'équipe, voilà ma question. Avoir 60 ans minimum et avoir la vue qui baisse, sont-elles des conditions requises pour devenir arbitre en NFL? Plus sérieusement, pourquoi voit-on aussi peu de jeunes arbitres? Mais alors ça, pour le coup, les jeunes arbitres, la question est venue souvent. C'est aussi parce qu'ils progressent petit à petit, d'abord dans les rangs universitaires, etc., avant qu'ils les recrutent. Donc c'est vrai qu'ils sont quand même assez âgés pour certains.
Mais alors, il y a plein de gens qui disent qu'il y a moins d'erreurs en NCAA, donc va peut-être falloir réfléchir quand même à.
Bah parce que les règles sont plus simples aussi. Tu peux garder les réceptions, ça peut se faire à un pied sur le terrain. Enfin voilà, c'est la seule différence que je connaisse.
J'attendais la suite.
Non, mais je sais pas. Mais je pense quand même qu'ils sont peut-être un peu moins. Sévère en NCAA aussi.
Peut-être.
Bon, et après, ça va peut-être aussi un peu moins vite en NCAA.
Peut-être.
C'est pas tout à fait les mêmes gabarits. Parce qu'il faut quand même dire un truc. Alors, je cherche pas à excuser certaines énormes erreurs, etc. Mais il y a très peu de sports qui sont faciles à arbitrer à l'heure actuelle maintenant. Peut-être à part le tennis, maintenant qu'il y a des trucs partout. Et
voilà. Ça fait Roland Garros. Hein.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même 22 mecs, dont une bonne dizaine qui se rentrent dedans. Tous les mecs se touchent quasiment en permanence, se bousculent, etc. C'est quand même hyper, hyper compliqué à arbitrer comme sport. Quoi. Donc voilà, sans aller jusqu'à l'erreur grossière qu'on a vue dans le match Saints-Rams, hein, mais c'est quand même un sport très, très, très compliqué à arbitrer. Donc il y a des fois où c'est pas évident. Quoi. C'est pas des robots. Hein,
voilà. Non, bien sûr.
Question de The Manon, il est l'heure de la finale, quel fromage pour accompagner le Super Bowl? Alors ça c'est juste pour teaser, hein, dans le fauteuil du Super Bowl, je vous ferai un top 10 des fromages de l'année, ne vous inquiétez pas.
Cool.
Ah bah attends. Alors je suis en train de parcourir par reprendre tous. Hop, quel est le coaching staff que vous aimez le plus qui a été formé cette année? Demande Edouard DLT ou DIT, je suis désolé. Raphaël, tu disais Bruce Arians, toi ça te plaisait bien.
Ouais, Bruce Arians avec de mémoire du coup Todd Bowles en coordinateur défensif. Je trouve qu'il y a un peu de, en termes de coaching, c'est quand même plutôt intéressant pour les Buccaneers qui manquent de bons coachs depuis tant d'années. Donc voilà. Bah,
formé cette année, il y a Matt Nagy chez les Bears.
Oui, de cette saison, oui. Ouais. Ouais. Je ne sais pas s'il voulait dire tout juste formé ou formé au cours de la saison.
Ah, tout juste formé, je ne sais pas encore, mais les Bears, moi, ça m'a bien plu. Ouais.
Question de Je s'appelle Gronk. James Devlin n'est pas le joueur le plus flashy des Patriots de par son poste, mais n'est-il pas devenu un des piliers offensifs de New England à l'image d'un Edelman ou d'un Gronkowski? Ses blocs sont impressionnants, il participe à la protection de Brady, il se risque même à quelques réceptions. C'est vrai qu'on n'a pas donné son nom, la question était l'occasion de la donner, James Devlin aussi.
Ouais, bah le fullback, non mais tout est dit, c'est un fullback utile chez les Patriots quoi, enfin... Non, il n'y a pas que les Patriots, mais...
Il y a peu d'équipes qui utilisent
un fullback. Peu d'équipes qui utilisent aussi bien un fullback, et New England en fait partie, et voilà.
Et on termine avec une question de Guerlouche. Avez-vous une accréditation pour aller assister au Super Bowl? Si oui, qui y va? Sinon, ne serait-il pas le temps de faire le gage des pronos de l'an dernier? Deux réponses très faciles. Oui, on a une accréd. Oui, c'est Grégory Richard qui y va parce que c'est à Atlanta, évidemment. Ça me paraissait quand même assez logique. Et le gage des pronos, va falloir qu'on se mette d'accord.
Bah, on avait dit qu'on attendait de voir le résultat de cette année pour faire un gage à deux, non?
Ouais, mais
à moins que je perde et que je fasse deux gages tout seul.
On peut peut-être déjà le définir. Oui, alors on rappellera plus tard. Bon, on peut le rappeler. Hein, ça va être serré jusqu'au bout. Mais du coup, Raphaël, toi, t'en es où avec Greg? Vous aviez pris la même chose.
Fini. C'est fini. Hein, Greg a gagné.
Greg va gagner.
Ah, Greg a gagné. Ah, bon, ouais. Voilà. Donc Greg a gagné. Je suis désolé, moi, j'étais trop focalisé par la lutte dans le groupe Eto, si tu veux. Donc voilà, moi je reste à portée de tir de Raoul, tout va se jouer sur le Super Bowl pour le gage, donc n'hésitez pas à envoyer vos propositions.
Je peux plus te rattraper d'ailleurs, Raphaël.
On termine là-dessus, messieurs. Je vais vous laisser aller dormir. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à toi. Merci à tout le monde.
Merci beaucoup, Raoul. Merci beaucoup, merci Camille. Je vois Camille qui est écroulée sur la console. c'est comme ça que se termine l'épisode 282 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour la preview du Super Bowl. Et oui, un petit peu de repos. Et on vous fait une grande preview. Le fauteuil, évidemment, avant le Super Bowl. Et puis le 5 février, le débrief en public au Hard Rock Café. Le Hard Rock Café qui vous propose, évidemment, nos podcasts de débrief et on les remercie. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des évaluations sur iTunes, sur Spotify et tout ça et tout ça. Les réseaux sociaux à TD Actu sur Twitter, à TD Actu sur Facebook, à Touchdown Actu sur Instagram, à Raphaël _ TDA, à Raoul VDG, à Alain Mattei, à Camille Sarabène. C'est pour les comptes perso sur Twitter. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt à tous. Ciao ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com, code PROGRAM.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.